Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens et nous lirons les versets 27 du chapitre 1 jusqu'au verset 18 du chapitre 2. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vous livré et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je me réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Je vous invite donc à garder vos Bibles ouvertes dans l'Épître aux Philippiens que nous allons ensemble étudier ce matin. En parlant de prédication, Calvin a dit un jour ceci. Je vous le cite. « L'action de l'Esprit est associée à la parole de Dieu, mais elle s'en distingue, pour que nous sachions que la parole extérieure ne sert à rien si elle n'est pas vivifiée par la puissance de l'Esprit. Tout pouvoir agissant réside donc dans l'Esprit lui-même. » Fin de cette citation. Donc la Bible est la parole de Dieu par elle-même, mais elle est rendue active dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de prier pour la prédication, comme vous le faites chaque semaine. Et nous comptons donc sur cette œuvre de l'Esprit, une fois encore aujourd'hui. Et il y a deux semaines, nous avons commencé ensemble l'Épître aux Philippiens. Nous avions vu un petit reportage qui nous avait permis de nous remettre dans le contexte de l'église de Philippe, donc cette première ville visitée en Europe par l'apôtre Paul. Et nous avons pu aussi constater que l'apôtre Paul, en écrivant l'Épître aux Philippiens, est maintenant en prison à Rome, 10 ans plus tard. Il a reçu des dons de l'église de Philippe et il les remercie et il désire une attitude juste et des progrès spirituels de la part de cette église. L'affection, la reconnaissance, la joie et l'attachement à Christ surgissent avec force de cette lettre attentionnée. L'affection, la reconnaissance, la joie et l'attachement à Christ surgissent avec force dans cette lettre attentionnée. Il y a souvent des chers, des bien-aimés, etc. dans ce texte. Et trois versets ont été, en fait, la dernière fois, nos points de référence. Nous avions développé le premier point avec le verset 6 du chapitre 1 qui parlait de l'œuvre de Christ jusqu'au bout. Souvenez de ce verset peut-être, vous pouvez le relire avec moi, le verset 6 qui disait « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Le deuxième point que nous avions vu ensemble, c'était l'œuvre de Christ en toutes circonstances. L'apôtre Paul disait, alors qu'il était en prison et que même des personnes prêchaient Christ pour comme concurrent, disons, et voilà, voici ce qu'il dit au verset 12. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Les circonstances, en fait, n'empêchent pas l'œuvre de Christ. Et troisièmement, ce que nous avions vu, c'est que l'œuvre de Christ, c'est la vie. Le verset 21 était très fort, que nous avions lu. L'apôtre Paul qui dit ceci, et que nous pouvons dire aussi lorsque nous sommes en Christ, « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Voilà ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Et dans la prédication du jour, qui est la deuxième d'une petite série qui fait le survol de l'épître aux Philippiens, nous allons nous imprégner ce matin, vous pouvez regarder dans vos Bibles au chapitre 2, du verset 5. Ce sera le verset central de toute la prédication. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Et le titre de cette prédication découle de cela, donc « Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. » Or, ce passage permettra de nous imprégner, en fait, de cette notion de la pensée de Jésus-Christ avec 3 parties qui se composent comme un sandwich. En fait, on aura une première partie et une dernière partie qui parlera d'impératif, qui manifeste, en fait, que la pensée de Jésus-Christ est dans nos cœurs. Et au milieu, nous aurons une partie où nous parlerons de la pensée de Christ dans sa propre vie. Le menu est donc celui-ci. Le premier point sera digne de l'Évangile avec la pensée de Jésus-Christ. Le deuxième, la pensée de Jésus-Christ dans sa vie. Et le troisième point, le salut en action selon la pensée de Jésus-Christ. Nous allons donc commencer le premier aspect qui se base sur le verset 27 à 2-4. Et afin d'avoir ces textes bien en tête, nous relirons chaque fois les parties qui concernent notre petite étude. Alors, verset 27 du chapitre 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 2. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Digne de l'Évangile, avec la pensée de Jésus-Christ. Nous avons commencé, en fait, cette lecture au verset 27 en rencontrant un impératif que le Seigneur, par Paul, adresse aux Philippiens et par extension aux Neuchâtelois, nous également. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Paul vient de faire un développement sur sa joie de voir les Philippiens prendre part à l'Évangile. Et il souligne une vérité fondamentale pour tout véritable chrétien, au verset 21 du chapitre 1 que nous avons vu, c'est que Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et cela a des conséquences. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit par Paul nous donne cet impératif, conduisez-vous dignement. L'expression « conduisez-vous » est un mot dans l'original qui signifie être un citoyen, se conduire comme un citoyen, se conduire comme engagé dans une certaine mode de vie. Donc ça signifie que quand Paul utilise cette expression de « conduisez-vous », il demande aux Philippiens d'avoir une conduite digne de leur citoyenneté céleste. Des actions dignes de l'Évangile. Et pour avoir une conduite et des actions de ce type, il faut premièrement que nos pensées soient dirigées dans cette direction-là. Puisqu'en fait, nos actions vont toujours suivre nos pensées. Voilà pourquoi il est important d'avoir cette pensée de Jésus-Christ dans nos cœurs pour vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et dans son pèlerinage sur la terre, les actions de Jésus ont toujours manifesté une pensée centrée sur la volonté de son Père. Vous pouvez lire tous les évangiles, vous verrez, c'est toujours des actions qui reflètent une pensée centrée sur la volonté de son Père. Il agissait en tant que fils. Cette identité conduisait toutes ses pensées et ses actions. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes appelé enfant de Dieu. Cette identité devrait toucher les pensées et diriger la volonté, notre volonté, selon la volonté de notre Père. Nous sommes appelés à penser, à agir selon cette nouvelle identité que nous avons reçue dans notre union avec Christ. Et pour illustrer cela, vous pouvez imaginer un homme, un médecin, qui se promène. C'est pas trop dur jusque-là, hein ? Il se promène, et à côté de lui se déroule un accident avec des blessés. Va-t-il continuer son chemin et ignorer qu'il est médecin ? Eh bien, ce serait terrible. Il a le privilège et la responsabilité d'être médecin. Il doit agir en conséquence. Sinon, il n'est pas digne d'être un médecin. Paul nous dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Lorsque nous voyons une injustice, cherchons à rétablir la justice. C'est le fruit de l'Évangile. Lorsque nous voyons une personne qui ne connaît pas l'Évangile et se perd pour l'éternité, nous sommes appelés à chercher à lui faire connaître l'Évangile. Chercher un moyen pour l'avertir de ce danger exceptionnellement terrible de se retrouver dans la géhenne éternelle. Lorsque nous pouvons aider ou soulager une personne, faisons-le. Toujours avec les forces que Dieu nous donne. Il n'y a pas besoin d'en prendre plus, il n'y a pas besoin de faire plus que ce qu'on peut faire. Jamais. Mais avoir la pensée qui était en Christ, c'est se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Deuxième impératif, demeurer ferme. Demeurer ferme pour la foi de l'Évangile. Et il donne une raison. Pourquoi est-ce qu'il faut demeurer ferme? Pourquoi demeurerions-nous fermes? Eh bien, la raison qui soutient cette fermeté, qui la motive, qui l'encourage, est donnée au verset 29, où il est dit « Car il vous a été fait la grâce de croire en Christ. » Car il vous a été fait la grâce de croire en Christ. Mais là, ça continue. « Et de souffrir pour lui. » Selon Hébreux 12:2, par exemple, il est clair que la foi vient de Dieu. Nous sommes donc motivés à tenir ferme parce que c'est une grâce qui nous a été donnée de croire. Okay? Mais il est aussi dit, c'est vrai ici, que souffrir est une grâce et que cela doit motiver notre fermeté. Alors, ce n'est pas un message très post-moderne, en fait, d'actualité, où on cherche plutôt à évacuer la souffrance par tous les moyens possibles. C'est un ennemi à éliminer, en fait, actuellement. Mais Paul vient de dire que, donc quand il est en prison à Rome, dans le chapitre 1, que nous avons aussi vu la dernière fois, que, en fait, par ses souffrances de prisonnier à Rome, il a encouragé un grand nombre de personnes. Par la souffrance de la persécution, en restant ferme dans la foi, des personnes absolument dures et fermées à l'Évangile ont été transformées par Dieu. En voyant que ceux qu'il faisait souffrir restaient fidèles. Un chrétien qui reste ferme à son allégeance à Christ, en cherchant la justice, en ne fréquentant pas certains milieux à cause de sa foi, même si on se moque de lui publiquement et que l'humiliation et le sarcasme fondent sur lui, cela montre qu'il a un fondement solide et que sa motivation n'est pas dépendante de la souffrance. En fait, l'apôtre Paul, il nous dit un élément fantastique ici. C'est pour lui une preuve de salut. est une preuve de perdition pour celui qui s'acharne contre lui. Mais quand quelqu'un se rend compte qu'il est perdu, c'est le chemin pour être sauvé. Et si c'est une preuve de perdition pour quelqu'un en face, c'est le moment d'annoncer l'Évangile pour qu'il puisse en fait se tourner vers Christ qui délivre. Et bien des personnes sont remises en question en voyant que sous les critiques et l'insulte, les chrétiens fidèles restent fermes dans leur foi en l'Évangile et dans ses conséquences pratiques. Plusieurs même ont été appelés à la repentance par ce moyen, à un changement de vie jusque dans l'éternité. Cela ne vaut-il pas la peine de souffrir pour que beaucoup trouvent leur sauveur, deviennent citoyens des cieux? C'est ainsi que nous comprenons que c'est une grâce de souffrir pour Christ. Une grâce qui transforme d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Non pas chercher la souffrance pour la souffrance. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, la souffrance s'arrêtera. Elle a une fin. Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, c'est tenir ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'Évangile. Et le troisième impératif que nous allons voir résume les versets 1 à 4 du chapitre 2, que nous pourrions résumer ainsi. Si l'Évangile est vrai, alors vivez-le. S'il est vrai. L'apôtre Paul le dit, s'il y a donc quelques consolations en Christ, enfin, etc., alors vivez-le. Vivre l'Évangile, selon ces quelques versets, c'est avoir une même pensée. Celle de Jésus-Christ. Un même amour. Une même âme. Être humble, altruiste. C'est ça l'Évangile. Et là, j'aime bien l'illustration des deux ânes pour comprendre cette notion. Vous la connaissez, cette illustration. Ces deux ânes qui sont attachés ensemble par une corde très solide. Hein? Et il y a deux tas de foin bien moelleux qu'ils aimeraient manger. Mais la corde est plus courte que la distance entre les deux tas. Ça va, vous arrivez à saisir là? Ok. C'est donc impossible de manger en même temps des deux côtés. Alors, s'ils ne vivent pas l'attitude qui caractérise l'Évangile que nous venons de voir, chaque âne cherchera en fait à atteindre son tas de nourriture en tirant sur la corde. En tirant sur la corde qui ne fait que les étrangler. Mais ils n'arrivent pas à leur tas de nourriture. Et chacun se dit, mais l'autre devrait quand même me laisser manger. Ok ? Mais lorsqu'ils décident ensemble d'aller d'un côté, les deux, puis de l'autre, ils peuvent manger. Mais il faut que l'un suive humblement l'autre et que l'autre partage sa nourriture. Et ensuite, ce sera l'inverse. Dès qu'ils ont été assez humbles pour suivre l'autre et généreux pour partager ce qu'ils avaient, ils ont pu se régaler de la bonne nourriture qui leur était donnée. Mais ne sommes-nous pas souvent comme ces deux ânes, cherchant à tirer de son côté? Eh bien, que l'Éternel nous donne la grâce de vivre Philippiens 2.4, qui manifeste clairement la pensée qui était en Jésus-Christ. Regardez avec moi au verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » C'est cela, vivre l'Évangile, et ainsi vivre selon la pensée qui était en Jésus-Christ. Prenons maintenant le temps de saisir la manifestation de cette pensée dans l'œuvre de notre bien-aimé Jésus-Christ. C'est la deuxième partie, le milieu du sandwich, hein? La pensée de Jésus-Christ dans sa vie. Mais avant de relire le texte dans Philippiens, j'aimerais vous lire un autre texte. Un autre texte qui est dans Ésaïe, au chapitre 14, les versets 13 et 14, c'est la description du roi de Babylone qui désire s'élever, mais qui est déclassé au plus haut point. C'est l'opposé. Alors lisons l'opposé et ensuite on ira lire ce que Christ a fait. Alors Ésaïe 14, au chapitre 14, au verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Lisons maintenant Philippiens 2, les versets 5 à 11, qui est à l'opposé de cet orgueil démesuré et qui nous indique la pensée qui était en Jésus-Christ. verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être dépouillé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Notre Seigneur Jésus-Christ, depuis sa position la plus élevée dans l'univers, descend jusqu'à la mort sur la croix. Le personnage dans Ésaïe disait « Je veux monter, monter, monter !» Et Dieu répond « Tu seras précipité au plus profond d'une fosse. » Et Jésus dit « Je veux descendre jusqu'à la croix. » Et Dieu, son Père, répond « Tu recevras le nom qui est au-dessus de tout nom. » C'est un des passages les plus glorieux du Nouveau Testament que nous avons ici sous les yeux. En fait, nous avons ici Jésus, le Christ, qui est Dieu, qui s'abaisse. Jésus est Dieu. Et ce texte le montre très clairement. En peu de versets, d'ailleurs, nous voyons la vie de Christ de son éternité passée, en passant par son temps d'humanité jusqu'à l'éternité future. Jésus est Dieu. Parce que s'il ne l'était pas, s'il était une créature, il n'aurait pas dû se dépouiller pour s'abaisser et prendre la condition d'un homme. S'il n'était pas Dieu, il n'aurait pas besoin de se dépouiller. S'il n'était pas Dieu, et la Bible ne se contredit pas, parce que la Bible interdit de se prosterner devant toute autre chose que Dieu. Dieu veut que la gloire lui soit donnée à lui seul. Et dans ce texte, il est dit que tout genou fléchisse devant lui. C'est parce que Jésus est Dieu. Jésus qui est Dieu s'est dépouillé. Et aucune religion inventée par les hommes dans notre monde a un Dieu qui se dépouille et se rend humble et se soumet, alors comme Jésus, à la volonté de son Père et est altruiste. Vous trouvez ça nulle part. Et qui est en même temps Dieu. Par amour pour son peuple, Christ se rend esclave. Il s'humilie volontairement et obéit jusqu'à la mort infâme sur la croix. Le Dieu de l'univers. Vous avez déjà réfléchi à l'univers? C'est pas facile, mais si jamais il y a des étoiles, ben vous sortez la nuit, vous voyez les étoiles, et elles sont loin, les étoiles. Mais en fait, elles sont tout près de nous face à l'univers. Comme si on pouvait les toucher. L'univers, c'est tellement grand. Hein, notre galaxie, avec son système solaire, ben, c'est déjà grand, vous êtes d'accord. Mais il y en a d'autres, des systèmes. Il y a d'autres galaxies, en fait. Et Dieu tient tout cela dans sa main. Donc, en fait, notre galaxie, c'est déjà un grain de poussière. Et puis la Terre dans la galaxie, ben, un grain de poussière dans un grain de poussière. Puis sur la Terre, une personne, ben, vous comprenez un peu? Eh bien, Dieu qui tient tout ça dans sa main, il est venu comme un grain de poussière. Quel abaissement! Et il n'est pas simplement venu ici en tant que, comme nous, directement, paf, à 30 ans. Non, il est venu comme des cellules dans le ventre d'une femme. Quel abaissement! Et cet homme a reçu un nom qui était ordonné à Joseph, où il était dit dans Matthieu 1, 21, « Tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et chaque fois que vous entendrez le nom de Jésus, rappelez-vous qu'il est dérivé d'un mot hébreu qui veut dire sauver, délivrer. Jésus est Dieu, Jésus s'est dépouillé, Jésus a souffert. Comme personne ne souffrira jamais. Jésus a souffert comme personne ne souffrira jamais. C'est vrai que ses souffrances corporelles ont été atroces. Mais d'autres personnes vivent aussi des souffrances malheureusement aussi atroces. Par contre, la souffrance morale qu'il a subie, personne ne la souffrira jamais à ce point. Imaginez, pour comprendre un tout petit peu une souffrance morale, que vous avez tué un enfant parce que vous rouliez trop vite. La faute a de dramatiques conséquences et la conscience vous accuse sans arrêt. Les nuits sont peuplées de cauchemars atroces. Voyez un peu cette souffrance morale. Jésus n'a pas seulement souffert pour une faute, par exemple d'un homme qui a tué quelqu'un. Il a porté le poids de toutes les fautes commises par chaque membre du peuple pour lequel il est mort. Une multitude de fautes. Bien plus grave encore que de tuer un enfant. Cette souffrance-là est inimaginable. Et même la pire dépression ne pourrait représenter la souffrance que Jésus a vécue. La parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est cela que Jésus a souffert. Il a pris la condition d'un homme, est mort à la croix pour prendre sur lui la colère de Dieu qui pesait sur les hommes à cause de leur péché. Jésus paye pour les hommes. C'est un homme qui devait payer, un homme qui ne devait pas payer pour les autres. Pardon, je me suis trompé là. Vous étiez présent bien. Qui ne devait pas payer pour lui-même. Hein? C'est un homme qui ne devait pas payer pour lui-même. Sinon, il devait déjà payer pour lui. Puis bon, c'est déjà bien assez. Non, il fallait quelqu'un qui ne devait rien payer pour lui pour qu'il puisse payer pour les autres. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est endetté de payer pour un autre. C'est uniquement quelqu'un qui a un compte en banque bien rempli qui peut le faire. Et comprenons bien qu'un seul péché, un seul péché, si vous avez péché une seule fois dans votre vie, eh bien ça a vidé votre compte en banque et ça l'a mis en négatif. Sommes-nous conscients que c'est de nos péchés que Christ s'est chargé? Ce n'est pas simplement une pensée abstraite d'un mal diffus dans le monde. Voilà, il a porté le mal, ok. C'est de nos péchés qu'il a, nos fautes, nos colères, nos mensonges, nos gestes déplacés, nos paroles blessantes, qu'il s'est chargé. Ésaïe 53:5, vous connaissez, dit bien, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et si quelqu'un se rend compte de ses péchés, que cela l'écrase, et qu'il comprend ainsi qu'il est impossible de s'approcher du Dieu saint, eh bien qu'il regarde à la croix, comprenant que Christ a pris sur lui les péchés de ceux qui se repentent et qui croient en son œuvre. Et si nous sommes déjà en Christ, eh bien, ne nous lassons pas de revenir à cette croix pour voir l'étendue de ses souffrances, pour deux raisons. La première, c'est de nous éloigner du mal, parce que c'est le mal qui l'a conduit là. Et chaque fois qu'on va regarder son œuvre, eh bien, nous serons avertis et encouragés à nous détourner du mal qui lui a fait tant souffrir. Et deuxièmement, bien sûr, de tomber à genoux pour l'adorer, le remercier, le louer pour un amour si grand. Nous voyons où la pensée l'a amené, où la pensée de Christ l'a amené. Il est fils de Dieu, Dieu lui-même. Il est venu accomplir une mission qui est maintenant terminée. Tétélestai, vous vous souvenez, sur la croix. Elle est terminée, sa mission. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne devons pas nous dépouiller de cette manière. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons donc pas payer pour les autres. Mais le texte ici dans Philippiens ne dit pas de faire l'œuvre de Christ, mais d'avoir la pensée de Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Christ, il l'a déjà faite. Mais nous devons avoir la pensée de Jésus-Christ. Nous chercherons donc à avoir une attitude similaire dans notre condition. C'est cela, avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Il n'a pas revendiqué sa place. Jésus n'a pas revendiqué sa place. Eh bien, nous ne chercherons pas à avoir une place en vue. Et puis juste pour l'encouragement, j'aimerais quand même vous dire une chose par rapport à ça. Pourquoi chercher une place en vue alors que nous l'avons déjà en Christ? Nous l'avons déjà, notre place en vue. Nous sommes déjà dans la gloire avec Christ. Pourquoi chercher une place en vue et écraser d'autres, par exemple? Jésus n'a pas revendiqué sa place. Ayons cette même pensée. Deuxièmement, il s'est humilié volontairement. Il s'est humilié volontairement. Nous chercherons donc les tâches humbles. Et nous accepterons les responsabilités humblement, en sachant que nous sommes glorifiés en Christ. n'y a pas besoin de chercher à se glorifier. Cherchons l'humilité. La glorification, nous l'avons déjà en Christ. Troisièmement, il s'est soumis en tout à la volonté du Père. Jésus-Christ s'est soumis en tout. Eh bien, ayons cette même attitude, cette même pensée. Nous voulons aussi être soumis à notre chef qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ. Celui qui est élevé au-dessus de tout nom, sachant que tout ce qu'il nous demandera est juste excellent. Jésus ne nous demandera jamais quelque chose de mauvais. Pourquoi alors ne pas lui être soumis ? Quatrièmement, il a donné de manière altruiste. Il a donné de manière altruiste. Et nous voulons donner tout ce que nous avons reçu et le servir en nous mettant au service des autres, en sachant que nous avons en fait tout pleinement en lui. Voyez, toutes ces attitudes, en fait, c'est avoir la pensée qui était en Jésus-Christ dans notre vie tous les jours. C'est cela, avoir la pensée de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit en introduction, eh bien, la troisième partie de ce texte complète le sandwich dont nous venons de voir la partie centrale que j'ai intitulé la pensée de Jésus-Christ dans sa vie. Passons maintenant à notre dernier point, le salut en action selon la pensée de Jésus-Christ. Alors nous relisons les versets 12 à 18 du chapitre 2 de Philippiens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Le verset 12 ici parle de mettre son salut en action. C'est comme un écho des versets 27-28 qu'on a vu au début de la prédication. Se conduire d'une manière digne de l'Évangile, c'est mettre son salut en action en fait. Et dans les deux passages, un aspect que nous n'avons pas encore abordé revient. Il s'agit pour les Philippiens d'agir de la même manière que Paul soit présent ou non. D'agir de la même manière qu'il soit présent ou non. Est-ce que nous vivons notre foi de la même manière quand notre pasteur ou un ancien est présent à nos côtés? Est-ce que nous vivons de la même manière quand il est là que quand il n'est pas là? Moi, je me souviens très bien quand j'étais en apprentissage d'électronicien, mais je travaillais tellement mieux quand le maître d'apprentissage regardait ce que je faisais. C'est drôle. Hein? Au travail, pendant nos devoirs, nos tâches ménagères, toute activité, nous nous appliquons souvent beaucoup plus lorsque quelqu'un nous regarde. Ici, les Philippiens ne sont pas simplement appelés à faire comme si Paul était présent. Mais en fait, ils sont appelés à faire bien plus encore maintenant qu'il est absent. Vous voyez la motivation? Alors qu'il est absent, on va faire encore plus. Parce que notre motivation principale, ce n'est pas pour Paul, c'est pour Dieu. Et que devait-il faire, ici, dans ce texte? Eh bien, ils devaient mettre leur salut en action. C'est ce qui est écrit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Alors, certaines traductions disent, par exemple, dans Louis II ou Osterwald, « Travaillez à votre salut ». Ou même, dans la parole de vie, il est dit « Travaillez pour être sauvés ». Ici, dans ce texte. Est-ce que ça veut dire que nous devons travailler pour parvenir au salut? Est-ce que l'apôtre, inspiré de Dieu, démontre que notre action est l'élément fondateur du salut? Pour ne pas aller trop dans la technique des termes ici, je vais vous prendre quelques autres traductions qui nous aideront à le saisir. La traduction à la Colombe ou l'édition de Genève disent « Mettez votre salut en action ». La seconde 21 traduit « Mettez en œuvre votre salut ». Ou la semeur qui dit « Faites fructifier votre salut ». En fait, ces traductions-là nous aident à comprendre « Ben non, c'est pas nous qui en fait sommes à la base du salut ». Les Philippiens sont en fait appelés à mettre en action ce qu'ils ont déjà reçu, et non d'agir enfin d'obtenir le salut. Aucune œuvre ne peut nous sauver, sinon c'est comme si on, on demandait, ben faites l'exercice une fois, vous allez à côté d'un cimetière et vous allez demander aux morts de faire toutes sortes de bonnes choses et ensuite ils recevront la vie. C'est juste pas possible. C'est impossible pour le mort d'agir avant d'avoir reçu la vie. Il en est de même pour le salut. Impossible de mettre en action avant de l'avoir reçu. C'est pourquoi le Saint-Esprit par Paul dit dans le verset suivant, pour ça le contexte il est toujours intéressant, hein, le verset suivant nous dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » C'est très clair dans ce texte. Donc si on n'était pas très sûr avec le verset 12, le verset 13 remet tout à plat. Et n'est-ce pas rassurant de savoir que notre salut n'est pas entre nos mains de pauvres pécheurs, mais dans les mains de Dieu, qui est juste, saint, amour, tout-puissant. Quelle tristesse de voir que ce verset 13 est parfois utilisé pour ne rien faire. On nous dit, si c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire, alors j'attends de voir, j'attends d'avoir envie, comme ça je verrai que lui il est en train de bosser, puis ensuite, eh ben je me donnerai. Mais d'abord j'attends. Mais c'est que lorsque j'avance mon pied, que je me rendrai compte que je marche et que j'ai reçu cette faculté. Dieu ne nous dit jamais que nous allons d'abord visualiser tout notre parcours de vie et puis ensuite nous le vivrons. Mais non, c'est par la foi que nous avançons avec notre pied et par la grâce, nous avons la joie de constater que nous avançons, que nous marchons. Notre volonté est pleinement active. C'est la pédale de gaz de votre voiture et Dieu en est le moteur et le carburant. Vous n'attendez pas d'avancer pour mettre les gaz. Vous n'allez pas dans la voiture, après pour partir, vous mettez dans la voiture, vous dites bon, j'attends, quand elle partira, je mettrai les gaz. Mais non ! Vous mettez les gaz et vous vous rendez compte qu'elle avance. C'est merveilleux. Notre volonté est pleinement active, c'est vrai. Mais si nos actions sont externes et visibles, elles expriment une œuvre essentielle qui est interne et invisible. Notre action externe qui est de mettre notre salut en action sera la pensée qui était en Jésus-Christ. Et cette pensée est encore habillée d'un autre aspect qui est décrit dans le très court verset 14. Verset 14, il est très court. Vous avez vu ? C'est écrit « Faites tout sans murmure ni discussion ». Et les versets 15 et 16 nous donnent les conséquences de faire tout sans murmure et discussion. Lisez avec moi, verset 15. « Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. » En fait, tout faire sans murmure ni discussion, c'est se soumettre totalement à la volonté de Dieu, sans murmure contre ce qu'il demande. Les règles qu'il établit sont bonnes. Aucune discussion pour se dégager de nos responsabilités, avoir plus de confort ou de bien-être personnel en évitant certains efforts. C'est ça les discussions. Ouais, mais on pourrait pas faire autrement. Mais quand même, c'est un peu dur ces lois, ces commandements. On pourrait pas un peu... Non. Sans murmure ni discussion. Le monde murmure contre Dieu. S'il y a un Dieu, tout irait bien pour moi. Un Dieu qui m'interdit de pécher pour mon plaisir me répugne. Voilà ce que dit le monde. Le monde discute les exigences de Dieu. Mais ne soyons pas si puritains. Pourquoi bien se tenir, rester fidèle à son épouse ou son époux au lieu de jouir de toutes les offres sensuelles que je reçois ? C'est pas si grave. Tout le monde le fait. Ouais, c'est vrai, je déclare pas tout aux impôts, mais c'est des voleurs. Nous sommes appelés à vivre comme une lune qui reflète totalement le soleil. Et chaque pensée du monde que nous acceptons vient obscurcir notre reflet et peut même nous amener à une éclipse totale. Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, en mettant notre salut en action sans murmure ni discussion, c'est être une pleine lune qui reflète la lumière du Christ. Toutes les murmures et les discussions qui viennent du monde cachent en fait une partie de la lumière du soleil reflétée par la lune. Donc avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, en mettant notre salut en action sans murmure ni discussion, c'est être une pleine lune qui reflète la lumière de Christ. Dans un monde d'écran omniprésent, il est facile de se laisser remplir par les pensées du monde. Mais vous savez, nous ne débordons, j'ai déjà dit souvent, mais je continue à le dire, nous ne débordons que de ce que nous nous remplissons. Vous ne pouvez pas déborder d'autre chose. Vous n'allez pas refléter autre chose que ce de quoi vous êtes éclairé. Lorsque j'ai du temps pour choisir ce qui m'éclaire, Donc si j'ai du temps pour choisir ce qui m'éclaire, qu'est-ce qui va m'éclairer? Qu'est-ce qui va me remplir? Est-ce que ce sera un écran débitant les pensées du monde? Ou bien un outil de la grâce de Dieu? Alors l'écran peut être utilisé avec un contenu qui est stimulant, glorifiant. Ce peut être la lecture de la parole de Dieu, la lecture d'un livre qui nous fait aimer la parole. Le temps passé avec des personnes qui aiment Dieu et qui nous stimulent à penser comme lui. La jouissance de la création en nous réjouissant de ses beautés. Il y a tant de façons, en fait, de se mettre à la lumière de Dieu pour le refléter. Et alors nous brillerons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est écrit dans le texte. En conclusion, en parcourant ce texte de Philippiens, nous avons vu ce matin et cherché à mieux comprendre ce que signifie avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est vrai qu'en regardant notre divin exemple, ça peut paraître impossible à atteindre, avoir la même pensée que Jésus-Christ. Un peu comme l'histoire de ce jeune garçon qui voit un jour des astronautes et qui dit à son père « Je veux être un astronaute et placer des satellites autour des planètes. » Bon, c'est une belle ambition. C'est une belle ambition. Mais s'il est sage, le père dira à son fils que le travail auquel il pense demande une grande connaissance et de longues années d'entraînement. Et s'il pense sérieusement à ce travail pour l'avenir, il ferait bien de répéter ses tables de multiplication, les bases de la physique, tout en apprenant la discipline. C'est la base. Celui qui veut devenir astronaute d'un coup n'y arrive pas. Celui qui veut devenir comme Christ d'un coup n'y arrive pas. Être humble, obéissant, altruiste en toute situation d'un coup, ce n'est pas possible. Mais s'exercer, commencer par les petites choses, c'est possible. Pour avoir constamment la pensée qui était en Jésus-Christ, il faut commencer par la connaître et se l'approprier petit à petit. Mettez votre salut en action. C'est un ordre qui repose sur une promesse, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. La promesse n'est pas un oreiller de paresse, ni un acte à attendre pour s'engager et se mettre en action. Non, la promesse va s'accomplir au moment où nous nous mettons en action, pas avant. En fait, la promesse, elle s'accomplit au moment où on se met en action. La pensée qui était en Jésus-Christ va vous conduire à agir de manière juste et aimante. Exerçons-nous dans les petites choses de la vie. Par exemple, demeurer juste dans les petites choses pourrait être, vous allez dans un magasin, ça je ne fais pas de publicité pour un magasin particulier, vous êtes dans un magasin et en sortant, la caissière vous redonne trop d'argent. Et là, vous avez l'occasion d'exercer. Est-ce que je vais vivre selon la pensée qui était en Jésus-Christ, qui était de vivre de façon juste? Eh bien, si je l'exerce, qu'est-ce que je fais? Je retourne vers la caissière et je lui redonne la monnaie qu'elle m'a donnée en trop. Si je ne vis pas selon la pensée qui était en Jésus-Christ, je pars et je me dis, ah, ça me fait un peu plus d'argent. Vous voyez? Mettre en pratique par des petites choses, ou alors même fatigué lorsque vous rentrez d'une journée de travail, d'une journée d'école, eh bien d'aider aux tâches ménagères à la maison, sans murmure ni discussion. C'est manifester une pensée remplie d'altruisme et de bonté, comme Christ. Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, c'est être une pleine lune qui reflète la lumière du soleil. Encourageons-nous donc à être des lunes pleines du reflet de la vie, de la pensée qui était en Jésus-Christ, et fuyons les éclipses provoquées par la pensée du monde. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde dans sa grâce abondante. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de pouvoir lire cette parole de Dieu qui nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui, qui a été écrite il y a bientôt 2000 ans, où le Saint-Esprit a conduit, inspiré l'apôtre Paul. Et Seigneur, nous te remercions parce que l'apôtre Paul, en remerciant cette église de Philippe pour leur don, ne fait pas un simple remerciement, mais désire qu'ils puissent être encore plus proches de Christ. Merci pour ces paroles. C'est vrai que cette parole d'avoir la pensée qui était en Jésus-Christ est quelque chose qui nous dépasse par sa signification. Mais Seigneur, nous désirons y tendre avec ta grâce et par ta force. Ô Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes la promesse que lorsque nous nous mettons en action, tes promesses se réalisent. Tu veux, Seigneur, que nous ne soyons pas des paresseux, que nous ne soyons pas des gens fatalistes, des personnes qui attendent de voir venir. Non, tu nous engages, Père. Mais tu ne nous engages pas seuls, tu es avec nous. Et tu seras toujours avec nous. Je te prie vraiment que nous puissions avoir vraiment cette attitude de mettre un pas en avant et de nous réjouir, que tu nous donnes la faculté de marcher. Seigneur, que nous soyons ces lunes qui reflètent ce soleil pleinement. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.